Vous allez écouter une table ronde enregistrée dans le cadre de la semaine du BTP et qui s'est déroulée à l'agence France Travail de Carpentras.
Bienvenue donc dans cette table ronde dans le cadre de la semaine du BTP. Alors donc on va présenter à tour de rôle les intervenants donc qui sont présents pour cette, et on va leur demander par exemple des questions sur présenter leur structure, valoriser aussi et mettre en avant un petit peu leur présence. Donc on va tout d'abord commencer avec la Fédération départementale du bâtiment, et c'est madame Gaulin voilà qui va prendre le micro. Elle va pouvoir un petit peu se présenter. Donc tout d'abord, madame Gaulin, quel est un petit peu le rôle principal de la fédération dans Vaucluse et comment soutenez-vous au quotidien les entreprises du BTP?
Donc bonjour à tous. Donc la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics est une organisation professionnelle au service des entreprises de bâtiment et travaux publics. Donc notre rôle, c'est de les conseiller, les informer, les rassembler, les informer sur tout ce qui est en rapport avec leur métier, hein, sur des problèmes qu'ils peuvent avoir au niveau juridique, sur les marchés publics, sur l'emploi, sur la formation, sur la technicité des métiers. On fait régulièrement des réunions, on anime les sections métiers, voilà, c'est ça notre rôle.
Et pour vous, quelle est l'importance finalement d'être présent sur une journée comme celle-ci?
C'est important parce que nous, on est là pour la promotion des métiers du BTP. On est là pour susciter des vocations, hein, parce que le BTP est un secteur porteur. Hein, c'est le deuxième secteur qui recrute le plus en France. Donc on est là voilà, pour vous motiver, pour venir. On a besoin de monde, voilà.
Alors que je précise aussi, si vous avez des questions hein, qui vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à les écrire et vous pourrez tout à l'heure, donc dans la partie questions-réponses, les poser aux intervenants. Merci beaucoup donc à vous, madame Gaulin, donc pour la Fédération départementale du bâtiment. On va continuer un petit peu ces présentations avec donc l'opérateur de compétences de la construction, c'est Constructis, avec madame Canavo. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir. Voilà, donc je travaille pour l'OPCO, donc c'est un opérateur de compétences effectivement du secteur de la construction. Donc nous, on représente trois branches. La branche du bâtiment, qui est la plus grosse des branches qu'on va représenter. La branche des travaux publics, hein, plus petite mais pas des moindres. Et la branche des négoces, donc les négoces de bois et de matériaux, comme des Saint-Gobain, des Point P, ce genre de choses. Voilà. Donc on a une logique de branche pour représenter toutes ces entreprises. Et donc nous, notre rôle principal, c'est de les accompagner dans tout ce qui est vie de formation. Donc ça va être sur l'embauche d'un nouvel arrivant qui va rentrer peut-être en alternance ou qui va rentrer directement en poste, en CDD ou en CDI, et qu'il va falloir accompagner avec de la formation. Voilà. On les accompagne aussi bien sûr tout au long de leur carrière. Donc par exemple, Monsieur Pelka qui est ici présent fait monter en compétences régulièrement son personnel, et donc on va intervenir dans le cadre de financement de plans de développement des compétences. Voilà. Et on accompagne aussi pour plein d'autres sujets, RH, justement, des sujets où on va devoir réadapter des personnes qui sont plus aptes à leur poste parce que, par exemple, pour des raisons physiques, et là aussi, on est là pour trouver des solutions pour pouvoir, pourquoi pas, réorienter les personnes en entreprise ou ailleurs.
Voilà, vous contribuez donc, pour résumer un petit peu, financièrement donc au développement de la formation donc professionnelle des salariés des branches du bâtiment, donc négoce de matériaux de construction ou travaux publics.
Exactement.
Merci. On va donc maintenant parler du CFA du bâtiment d'Avignon. Donc c'est le CFA Florentin Mouret avec donc madame Bruguier. Et pour vous donc, première question, quelles sont les principales filières de formation que le CFA propose et à quel public? Est-ce que ce sont des apprentis, des adultes par exemple?
Bonjour à tous. Donc le CFA du bâtiment, comme son nom l'indique, hein, on est vraiment spécialisé dans le secteur du bâtiment. Donc tous les métiers autour du bâtiment, sauf la couverture. Donc nous formons des adultes, donc des jeunes en sortant du scolaire, mais des adultes aussi en reconversion. Donc en apprentissage pour les 16 à 29 ans. Au-delà de 29 ans, il faut savoir que vous pouvez bénéficier aussi de l'apprentissage sous trois conditions, qui est être travailleur handicapé, avoir une reconnaissance de travailleur handicapé, ou avoir été un sportif de haut niveau, ou également avoir un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc on forme des jeunes, notre cœur de métier c'est l'alternance, c'est-à-dire l'apprentissage, et nous formons aussi, on s'ouvre vers la formation continue, et on aide les publics, on va dire, au-delà de 29 ans qui ne rentrent pas dans le cadre de l'apprentissage, à monter des dossiers de financement pour que vous puissiez bénéficier de la formation professionnelle. Et on forme au métier du CAP au Bac plus 2.
Et alors, quelle est pour vous en ce moment l'offre de formation la plus importante que vous proposez?
Alors, on a l'offre de formation, peut-être là où on a le plus de demandes, ça serait en maçonnerie, sur le métier de maçon. Et là où on a le plus de demandes de candidats et où ils s'arrachent un peu tous les mêmes entreprises, ça serait en plomberie, chauffage et électricité, pardon.
D'accord, merci Madame Bruguier. Alors, on va continuer donc avec Madame De Crozal, donc pour le CIE 84. Donc, quel est un petit peu le rôle justement de ce CIE dans le Vaucluse et comment est-ce que vous rassemblez les structures œuvrant pour l'insertion professionnelle ?
Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue à France Travail. Le collectif, comme son nom l'indique, c'est un collectif qui rassemble toutes les structures d'insertion par l'activité économique qui sont présentes en Vaucluse. Les structures d'insertion par l'activité économique, ce sont des structures qui permettent aux gens d'avoir une transition professionnelle, soit parce que vous avez besoin d'une reconversion professionnelle, soit parce que vous n'avez pas de travail et que vous en recherchez, que vous avez besoin d'un temps où vous puissiez avoir une activité professionnelle et être rémunéré et en même temps avoir un accompagnement social et professionnel. Voilà, donc ça c'est le rôle du collectif, c'est de fédérer ces structures de façon à faire un petit peu mieux connaître ces structures, d'en faire la promotion, mais aussi d'aller vers les entreprises qui auraient besoin de personnel puisque nous on accompagne les personnes en insertion professionnelle.
Voilà, donc vous rassemblez un petit peu toutes ces structures, vous facilitez, donc facilitatrice de clauses sociales au Nord Vaucluse.
Les clauses sociales, c'est un dispositif qui est très ancien, qui permet de réserver des heures de travail dans les marchés publics ou privés pour les personnes qui ont des difficultés à trouver du travail pour des raisons diverses et variées, et aussi pour permettre aux entreprises d'avoir un sourcing un peu différent, de rencontrer des personnes qu'elles n'auraient peut-être pas rencontrées par les circuits classiques. Donc c'est une obligation qui est faite aux entreprises si elles répondent à ces marchés, et en contrepartie de quoi elles obtiennent aussi les marchés publics. Voilà.
Alors on va maintenant laisser la parole à Romina Bouillot, donc conseillère entreprise chez France Travail, pour aborder un petit peu avec nous les différentes aides et mesures ainsi que le volet formation. Bonjour.
Bonjour tout le monde, merci de votre présence. Donc je voulais juste faire un petit rappel sur les aides et mesures qui vont pouvoir vous accompagner dans votre parcours à un moment donné. Donc les deux qui sont plutôt en lien avec ce qu'on va faire cet après-midi, c'est-à-dire le recrutement, vous avez l'immersion professionnelle qui peut vous permettre d'aller découvrir des entreprises dans le cadre du développement de votre projet, hein, soit si c'est un projet de formation pour avoir un petit peu des informations concrètes sur le secteur par le biais de l'entreprise, d'un stage, ou dans le cadre de votre projet de recrutement. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre conseiller référent, c'est très simple. Maintenant, en plus, c'est mis en ligne sur le site du gouvernement. C'est les entreprises qui peuvent la mobiliser directement et ça vous couvre pendant une, deux, voire plus de semaines de stage. Après, c'est à voir un petit peu à négocier avec l'entreprise et votre conseiller. Mais c'est une réelle opportunité pour aller se rendre compte sur le terrain d'un métier. Et après, si vous voulez passer la vitesse supérieure, on va dire, on a une aide et mesure dans le cadre des offres d'emploi et de l'accompagnement recrutement qui s'appelle la préparation opérationnelle avant embauche, où là, on est sur une période de tutorat avant la signature du contrat de travail, pendant laquelle vous allez être en tutorat dans l'entreprise. C'est un tuteur de l'entreprise qui va vous accompagner sur la prise de poste et c'est une période un peu tampon avant la signature du contrat de travail. Donc c'est une mesure qui existe depuis des années à Pôle emploi, qui au niveau des résultats est vraiment gagnante-gagnante pour les deux parties parce que ça permet aussi bien de sécuriser l'employeur dans le cadre de sa sélection de candidats que le candidat de se dire « bon ben voilà, j'ai un temps où je vais pouvoir prendre mon temps pour la prise de poste et apprendre correctement le métier sur lequel je vais travailler par la suite. » Et donc ensuite, M. Pelka pourra donner un petit exemple parce qu'on en avait mobilisé une il y a un an et quelques en arrière. Et voilà, c'est un exemple concret de ce qui peut être fait et mis en place par France Travail.
Ben justement, on va en parler avec Monsieur Pelka. Donc Olivier, donc le gérant de Pelka Réseau et Canalisation. Donc on va déjà démarrer par présenter un petit peu votre entreprise. Quelle est l'expertise métier de Pelka et sur quel type de travaux d'infrastructure concentrez-vous principalement votre activité ?
Bonjour à tous, donc Olivier Pelka, je suis dirigeant de l'entreprise Pelka Réseau et Canalisation. On est basé à Caron, donc juste à côté. On intervient sur les départements du Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône, donc avec assez de proximité. On est essentiellement sur les métiers des réseaux secs et des réseaux humides. Voilà, avec des marchés publics, privés, avec des donneurs d'ordre comme Enedis ou les syndicats. En termes de postes, donc on pourvoit un petit peu tous les postes, hein, du chauffeur poids lourd au terrassier dans la tranchée, en passant par le chef d'équipe, chef de chantier. Pourquoi je suis là ? Parce que je pense qu'on a besoin aussi de promouvoir un peu ce métier-là, qui des fois qu'on pourrait dire qui est peut-être un peu dur, mais au final je pense qu'on a une grande autonomie. Et ça, je pense que c'est aussi assez important. Un exemple d'apprenti, donc on a donc par le biais de France Travail, c'est vrai qu'on a employé donc un salarié, donc voilà, je vais pas citer son nom, peu importe, mais comme électricien. Donc il a fait, il est passé par une structure qui s'appelle les CIRB. Là, il arrive en fin de formation, donc c'est une formation monteur réseau, donc électricien. Et voilà, ça s'est très bien passé. Là, il arrive en fin de formation, en fin octobre, et le but, c'est de l'embaucher, bien évidemment. J'en ai aussi un autre, je peux le citer. Alors, c'est plus un profil, on va dire, chargé d'affaires, type BTS, quoi. Donc lui, c'est plus pour un poste de bureau d'études, mais voilà, c'est des exemples. Il est en deuxième année actuellement. Donc, comme quoi aussi, on essaie de recruter aussi par ce biais-là, quoi. Voilà, ça, c'est important pour nous de montrer aux jeunes, même aux moins jeunes, hein, parce que Monsieur Gérès, c'est un contrat de professionnalisation. Je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, voilà. Voilà, c'est ouvert à tout le monde et voilà, il y a pas de retenue, quoi.
En fait, on avait donc identifié le profil. Donc, Monsieur Pelka s'était engagé à l'embaucher. Il y a eu un financement grâce à France Travail où, en fait, on a eu un premier sas de formation qui lui a permis de découvrir le métier. Et après, derrière, il y avait donc une fameuse promesse d'embauche qui a été donc, bien sûr, honorée par l'entreprise Pelka. Et là, c'est là où l'OBCO a pris le relais puisque cette personne désormais était salariée de l'entreprise, on a pu accéder à d'autres types de dispositifs et on a continué de le former puisque là, l'objectif, c'était vraiment de le faire monter en compétences pour qu'il soit opérationnel au sein de l'entreprise. Donc, il a eu, en fait, finalement, un premier sas de formation, puis un contrat en alternance qui lui a permis de continuer à apprendre, aller sur le titre pro de monteur, c'est ça, hein ?
C'est ça.
Voilà. Donc il part carrément avec un diplôme dans son nouveau métier après quoi, un an et demi d'embauche. Donc on peut dire que c'est plutôt une sortie positive pour tout le monde, autant pour ce monsieur demandeur d'emploi qui ne l'est plus, et puis pour l'entreprise Pelka.
Merci beaucoup. On va continuer avec Madame Magnan pour Équipe, une agence donc d'intérim. Et alors, quel est le positionnement justement d'Équipe et comment votre agence d'intérim se spécialise-t-elle pour le secteur du BTP ? Bonjour.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence et votre écoute. Donc, je suis Pauline, je représente Équipe, qui est une agence d'intérim et recrutement CDD-CDI. Majoritairement dans le secteur du BTP, on recrute sur des postes d'ouvriers, ouvrières de chantier, des postes d'encadrement, des postes en bureau d'études, dans l'administratif. On souhaite avoir une présence sur le territoire vauclusien, on a une agence sur Maubec, mais depuis peu, on a une présence physique sur Avignon et Carpentras. Donc voilà, la volonté, c'est de vraiment vous accompagner sur l'ensemble du territoire. Et de pouvoir être présent aux côtés des partenaires qui sont ici autour de la table pour rendre concret tous les dispositifs qui existent et qui sont d'une efficacité prouvée, hein, de par l'immersion, enfin voilà, tout ce qui a été évoqué jusqu'à maintenant, c'est de pouvoir rendre concret ces dispositifs, de pouvoir vous accompagner dans votre recherche d'emploi, dans votre réorientation professionnelle. Voilà, on est là au-delà pour faire de la mise en emploi et d'accompagner nos partenaires sur les recrutements. C'est de pouvoir vous accompagner à répondre peut-être à des questions. Si parfois vous ne connaissez pas forcément les métiers du BTP, c'est qu'on puisse vous éclairer sur ces métiers-là par des solutions X ou Y qui sont apportées par nos partenaires.
Merci Madame Magnan. Et puis donc on a l'agence d'intérim. J'ai de la chance avec Monsieur Philippe Marquez qui est juste à mes côtés. Pour vous, quelle est un petit peu la particularité de votre agence d'intérim et quelle est votre approche pour mettre en relation les entreprises donc, et les candidats ?
Alors bon, je me présente, je m'appelle Philippe, je suis le manager d'agence de J'ai de la chance, une agence d'intérim qui est basée sur toute la région PACA. Le but de notre agence, c'est de mettre en emploi les personnes éloignées de l'emploi qui correspondent à des critères d'éligibilité. Et on travaille avec des entreprises qui, comme me disait Madame de Crozal, ont des clauses sociales. Et nous, en tant qu'agence d'intérim, on peut vous positionner sur ces clauses sociales. Voilà, donc c'est juste, on sert de boîte aux lettres entre la facilitatrice et l'entreprise. Donc quand on a des demandes, on passe par tous nos partenaires pour qu'on puisse les aider, puisse m'aider aussi à trouver des profils qui sont éligibles. Et grâce à ça, on peut vous mettre en emploi sur ces types d'emplois. Moi, je fais beaucoup dans le bâtiment, mais je fais d'autres secteurs d'activité. Je fais pas que de la clause sociale. On peut faire aussi ce qu'on appelle la RSE dans les entreprises. C'est-à-dire que s'il y a des offres d'emploi et que les entreprises veulent des personnes qui sont éloignées de l'emploi, c'est comme ça qu'on dit, je peux les prendre dans mon agence et les mettre en mission sur les offres d'emploi que j'ai de mes différents clients.
Si Monsieur donc Philippe Marquès, on va continuer donc cette table ronde avec, je crois, une invitée qui vient de nous rejoindre et qui était donc prévue juste avant. C'est Essir Formation. Donc c'est Madame Ponce qui va pouvoir aussi, bonjour, répondre à une petite question. Alors quelle est pour vous la mission justement centrale d'Essir Formation et comment est-ce que vous répondez aux besoins de formation continue des professionnels des travaux publics?
Alors bonjour à tous, donc je suis Christelle Ponce, je travaille à l'ESIR. Donc l'ESIR, c'est l'école de la construction des infrastructures et des réseaux, le centre de formation des travaux publics qui est basé à Malemort en Provence. Donc nous, on aide aussi nos entreprises de travaux publics à recruter des profils sur les différents métiers, tous les métiers des travaux publics, on évoquera tout à l'heure plus en détail. Et on recrute des candidats débutants ou à perfectionner, et donc on propose des formations diplômantes en alternance, donc pour tout type de public.
Voilà, donc premier centre de formation des travaux publics dans le Grand Sud,
à
tous les types de besoins des entreprises de travaux publics, du terrain à l'encadrement des chantiers. Alors, on va maintenant passer à une partie interactive, donc avec vous qui êtes en ce moment présent. Donc on va proposer un petit peu un échange donc avec le public, et on va donc arriver à la partie questions-réponses. Alors bien sûr, votre participation elle est précieuse, elle est importante, et nous souhaitons donc vous donner la parole. Alors pour cela, on va vous demander d'être assez précis, assez concis, et donc poser une question claire à la fois, voilà, pour que tout le monde puisse avoir la parole et donc adresser, si possible, donc à un intervenant en particulier, si vous avez eu le temps, en tout cas, de noter chaque intervenant ou intervenante. Voilà, donc et après, sachez aussi que vous avez le temps d'échanger par la suite avec les intervenants après cette table ronde. Voilà, donc on vous remercie d'avance pour votre collaboration. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions?
Bonjour, je m'appelle Sylvain. D'après ce que j'ai compris, vous recherchez du monde pour travailler dans l'OTP. Donc j'aimerais une explication, une grosse expérience dans les négoces de matériaux, des CACES actuels à jour en tant que conducteur d'engin, et je n'arrive pas à travailler. J'ai été inscrit à EKIP, à Maubec. Je ne sais pas si vous me reconnaissez. Je suis venu, j'ai déposé plusieurs fois des CV sur Internet et je n'ai jamais eu l'occasion de travailler dans ce métier. Donc je voudrais savoir pourquoi. Vous êtes un employeur, je pense que vous aimez la franchise. Ok, j'ai l'appel de plus de 6 tonnes et le chargeur. Ok, je suis considéré comme débutant, mais j'ai une expérience en tant que jardinier paysagiste. Donc tous mes métiers, un derrière l'autre, peut expliquer que j'ai une envie de travailler dans ce métier-là. Et au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à travailler.
Moi, je peux y glisser une réponse. Après, en ce moment, il faut quand même pas oublier que c'est compliqué. Alors après, pour ma part, on a toujours en permanence... Il y a quelques intérimaires ou autres profils, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on traverse une période qui est quand même complexe, faut dire la vérité. Je le disais, aujourd'hui, je suis là, mais voilà, c'est quand même très compliqué pour nous, les entrepreneurs. Et puis, comme on disait, le gouvernement ne fait pas grand-chose non plus pour nous. Après, c'est vrai qu'on espère que ça reparte un peu. Il n'y a pas de frein plus que ça. Après, voilà, tout dépend de votre profil exact, mais on sera adapté après à voir. Après, effectivement, selon les CACES, on peut toujours en discuter, mais bon, après c'est vrai que en ce moment c'est pas facile, quoi. Voilà, c'est pas automatique, quoi. Après,
Alors on va laisser la parole peut-être.
Oui, juste, je voulais rajouter aussi, ça dépend. Il y a des métiers en tension et des métiers qui ne sont pas en tension. Conducteur d'engin, il y a pas trop de demandes en fait. Donc c'est aussi ça le souci.
Après, pour vous expliciter aussi le rôle de l'agence d'intérim au recrutement, c'est qu'effectivement on vous reçoit. On travaille avec vous, on peaufine avec vous dans quel type de métier vous recherchez. Nous, on transmet à nos partenaires. Mais effectivement, le contexte actuel fait qu'aujourd'hui, une entreprise nous appelle, nous exprime un besoin. Dans 2 jours, on leur envoie un profil. On essaye de faire matcher le profil avec la demande. Et en fait, l'organisation a changé. Aujourd'hui, le cours des choses vont très vite. Et on n'a pas forcément de concrétisation après, derrière, à vous proposer. Nous, encore une fois, notre rôle, c'est de pouvoir être au plus proche des alors clients, je préfère dire partenaires, pour justement faire savoir que vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous avez ces compétences. Si on doit creuser certaines compétences, on revient vers vous pour peaufiner ce trait-là pour que ça puisse coller effectivement à une offre d'emploi ou un besoin. Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question, et on se souvient bien de vous, hein, on était plusieurs à vous recevoir effectivement, la négoce de matériaux aujourd'hui, c'est une période très délicate pour eux. Et effectivement, l'embauche qui se faisait de manière plus naturelle, voilà, ou plus de l'instant T, c'est beaucoup plus mûri par les entreprises aujourd'hui. Ouais. Donc ça met plus de temps, effectivement, à ce qu'un recrutement aboutisse. Nous, on le remarque, hein, en tant qu'agence d'emploi, on remarque que quand on nous exprime un besoin, parfois le besoin se décante réellement qu'à 2 à 3 mois, parce qu'il manque de visibilité sur l'activité des entreprises aujourd'hui.
Merci. Est-ce qu'il y aurait donc une autre question peut-être dans la salle voilà, que vous souhaitez poser à un ou une intervenante?
Bonjour à tous, Frédéric. Donc moi, mon métier, c'est la comptabilité. J'habite à Caron, donc ça tombe bien. Si vous cherchez un comptable, ça ne fera pas de frais. C'est très bien. Donc voilà, moi, ma question, c'est que je vois sur de nombreux sites, on dit qu'il y a tant d'offres d'emploi. Manque de peau, il faut diviser. Je vais vous dire une chose, hein, c'est clair et net. Vous divisez le nombre par 5. C'est sûr et certain. J'ai eu affaire à vous, à l'équipe. Donc après, je sais pas si vous, je pense que c'est Marseille qui m'a appelé. Et donc voilà, bon, moi j'ai 60 ans. Mais bon, ça c'est pas le souci. Après, on reste en contact, il n'y a pas de souci. Moi, je suis en recherche d'emploi. J'ai 60 ans, à chaque fois on me disait, vous avez une expérience dans la comptabilité du BTP? On ne peut pas avoir d'expérience de partout, mais bon, vu le nombre de boîtes que j'ai faites, et puis la comptabilité, c'est quand même assez basique. Après, il y a des spécificités. À 60 ans, je pense que j'ai appris depuis le début jusqu'à la fin. Moi, je suis parti du CAP pour arriver aux études supérieures. Donc voilà, l'échéance, c'était à chaque fois 5% dans la classe suivante. Donc voilà, moi, ma question, c'était ça. Donc, je pense que tout le monde, et c'est sûr et certain, hein, c'est la panique en ce moment. Bon, après, ça va stabiliser, enfin, on espère. Mais bon, voilà. Donc, pensez être à l'écoute, je pense que vous l'êtes. Mais voilà, nous, je pense que je peux parler au nom de beaucoup de gens. On est motivés pour trouver du boulot. Mais après, bon, c'est très compliqué pour nous. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire.
Après, pour ma part, l'âge n'est pas un problème. Hein. Moi, j'ai embauché une personne qui a 58 ans il n'y a pas longtemps, chauffeur poids lourd. Donc, pour moi, il n'y a pas de frein. Après, ma femme fait la comptabilité, voilà, pour répondre. Mais voilà, après, sinon, voilà, il n'y a pas de. Selon les compétences et puis l'expérience, je pense que l'expérience, on sait l'adapter après à une activité, ça, c'est pas un problème. Je pense que, enfin, pour ma part, là, c'est pas un frein, quoi. Non, mais ça peut l'être, je pense, pour certaines entreprises, hein, peut-être, hein, certainement, mais.
Donc, je vais compléter sur. Effectivement, l'âge, c'est pas réellement un frein, on s'en rend compte de plus en plus. C'est de moins en moins un frein, en tout cas, en entreprise. Après, là, on est sur des métiers transverses. Donc, c'est vrai que les entreprises, elles vont avoir beaucoup plus d'offres en technique et beaucoup moins d'offres, effectivement, sur tous les métiers transversaux. Mais malgré tout, moi, je suis moi-même une administrative, entre guillemets, mais. Branche du bâtiment, donc c'est comme si j'étais je suis sur la convention collective du bâtiment, mais en étant sur un métier comme vous, plutôt administratif, quoi. Voilà. Donc il y en a, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup moins d'offres. Pareil, on a des formations très courtes qui permettent de juste apprendre les modules, on va dire, ou les spécificités de la comptabilité BTP. Effectivement, en général, ça suffit largement pour pouvoir travailler.
Alors, on parle effectivement de difficultés, on l'entend depuis tout à l'heure, mais comment justement ce secteur du BTP, il évolue ces dernières années, concrètement?
Est-ce que juste je peux revenir
peut-être sur la question d'avant?
Oui, c'est pour casser l'image effectivement de l'emploi senior. Alors à savoir que chez France Travail, on est senior très très tôt, je crois. Hein, il me semble que l'âge, c'est, j'ai plus en tête, défend entre guillemets l'emploi senior auprès des partenaires, dans le sens où aujourd'hui, même en étant jeune, on sait que les carrières ne durent pas des dizaines d'années aujourd'hui. Donc effectivement, ce discours-là, on essaye de faire parfois aussi, nous, à notre niveau, de faire changer les mentalités de certaines directions d'entreprise. Mais à savoir que pour rejoindre Olivier, à 57 ans, on a encore quand même pas mal d'années à travailler. Et que c'est pas parce qu'on a 25 ans ou 30 ans qu'on sait qu'on va rester 25 ans dans une entreprise. Donc on a conscience de ça.
Moi, je vais parler pour mon agence. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a des critères qui sont mis en avant. et les plus de 50 ans font partie des critères d'éligibilité. Donc nous, bien évidemment, l'âge, ça ne rentre pas, c'est pas un frein pour nous. Au contraire, on vous met plus en avant pour faire un accompagnement avec vous et vous trouver du travail. Voilà, tout simplement. C'est vraiment pas un frein du tout. Nous, au contraire, c'est une porte ouverte pour des métiers sur lesquels vous pouvez aller.
Je vais même rebondir sur le volet formation. On a de plus en plus, nous, en centre de formation, et je pense qu'à l'ESIR, c'est pareil, des adultes en reconversion. On a eu un apprenti qui avait 57 ans et qui derrière a trouvé en électricité et qui derrière a trouvé du travail. Mais en tout cas, dans la formation aussi, on a de plus en plus d'adultes en reconversion et qui viennent se former chez nous et qui ont de l'emploi derrière.
Donc, je repose ma question. Pour simplifier, un métier d'avenir, donc, et comment le secteur évolue un petit peu ces dernières années ?
Ben, je pense que c'est difficile. Après, c'est vrai que nous, on dit toujours que le TP, il a tendance un peu à suivre la filière du bâtiment. Donc, comme le bâtiment, en ce moment, c'est un peu compliqué. Tout le monde s'en doute un peu, hein, avec il y a moins de lotissements qui se font, il y a moins de voilà, les bailleurs ils investissent un peu moins, les prêts sont chers, enfin les taux. Donc c'est sûr que bah nous le TP derrière il suit un peu et on souffre un peu quoi. Donc on espère un rebondissement assez rapide quoi, mais bon pour l'instant c'est vrai qu'on traverse une période qui est quand même compliquée quoi. Faut être réaliste quoi.
Alors, juste avant de redonner la parole, peut-être que justement le métier est en mutation. Est-ce qu'il évolue justement ? Est-ce que il faut de nouvelles compétences aussi ?
C'est ça. Donc, pour compléter ce que dit Olivier, qui est vraiment sur le terrain. Donc, nous, par exemple, l'OPCO, donc de la construction, on va dire le point principal, c'est la transition écologique. Donc, effectivement, on travaille tous vers ces transitions. Donc, la transition numérique, hein, qui de toute façon, ça touche tous les secteurs, et la transition écologique, qui est particulièrement mise en avant, tout simplement parce qu'on fait partie des plus gros pollueurs. Et donc, effectivement, toutes ces transitions font que les métiers évoluent. On demande d'ailleurs constamment aux offres de formation d'évoluer et de rajouter un certain nombre de pourcentages dans les référentiels. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé des filières génie climatique. Forcément, quand on va être sur de la plomberie ou de l'électricité, on va tout de suite se rendre compte des évolutions en termes même de matériel, en termes d'utilisation. Voilà. Mais globalement, on va dire que tous les métiers vont vers un verdissement. Et donc toutes les techniques métiers associées aussi, on utilise par exemple du BIM, de la maquette numérique, les bureaux d'études, ce sont des métiers qui ont énormément évolué. Très sincèrement, on va essayer d'inclure cette transition écologique et numérique dans une bonne partie des métiers. On forme de plus en plus même les ouvriers à utiliser des smartphones, des tablettes, à faire leur retour de chantier, à prendre des photos, des vidéos, ce genre de choses. Voilà, ça fait partie aussi de la transition sur les chantiers.
Donc des nouvelles technologies, et il y a aussi des formations qui sont en rapport Absolument. Avec ces nouvelles technologies. On pourra peut-être l'aborder un petit peu après. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, pour qu'on puisse aussi continuer.
Bonjour. Je voulais savoir, les femmes dans le bâtiment, est-ce que vous pouvez les métiers, et notamment les conditions de travail aussi. Alors, je ne parle pas de l'administratif, mais vraiment des fonctions terrain.
Nous, au niveau de la formation dans le bâtiment, on a de plus en plus de femmes qui viennent se former. On était à une trentaine l'année dernière au CFA. Là, je ne peux pas le quantifier parce qu'on n'a pas finalisé notre rentrée. Il y a beaucoup de peintres. On a aussi des femmes en maçonnerie. Cette année, on en a deux en titre pro, chef de chantier gros œuvres, qui se forment et qui ont eu un bac en maçonnerie et qui se forment au-delà pour diriger des équipes. Plomberie en électricité, on a eu des reconversions, de sages-femmes qui se reconvertissaient, qui venaient faire électricienne et qui sont formées chez nous. Et les entreprises sont de plus en plus, j'ai envie de dire, ouvertes à l'embauche des femmes dans le bâtiment. C'était pas le cas il y a quelques années. Et aujourd'hui, ça s'ouvre de plus en plus vers ces profils-là.
Moins de freins, on peut expliquer peut-être moins de freins pour ces personnes-là ?
Oui, et puis les entreprises qui embauchent une femme dans le bâtiment aiment en tout cas encore plus en peinture, parce que c'est là où on en a le plus. Ils aiment cette finesse de travail. Oui, moins de freins et plus de peut-être de matériel aussi sur chantier. Je pense aux vestiaires, je pense aux équipements sanitaires aussi qui doivent être différenciés. De plus en plus, les entreprises vont vers cette organisation-là, en tout cas.
C'est une obligation et c'est de plus en plus apprécié. Hein, c'est exactement ce qu'a dit Sophie. En règle générale, ils commencent, ils embauchent une femme et après, ils sont plutôt friands, effectivement. Je pense que c'est même juste la preuve que plus de femmes intègrent les métiers du BTP et plus ça fonctionne. Le second œuvre, c'est sûr, c'est peut-être plus facile, mais on a plein de contre-exemples, même dans les métiers des TP. Absolument.
En maçonnerie, il faut dire que les charges lourdes se sont allégées aussi. Les sacs de ciment qui font plus 50 kilos, mais 25. Et ça s'est adapté, en tout cas, aux conditions aussi de travail de la femme.
Alors, pour la pénibilité, en plus, ça me fait toujours rigoler. On parle toujours du bâtiment, mais les femmes, on les oriente sur les métiers d'aide à la personne, où là, il n'y a pas du tout d'aide pour soulever des charges. D'accord ? Voilà. Ben, même s'il maigrit, il fait un certain poids. Voilà. Par contre, il y a aussi des métiers dont on ne parle pas. Alors moi, j'en parle parce que j'ai eu une expérience dans les métiers de la chaudronnerie, de la métallerie. En soudure, on demande souvent beaucoup de femmes. Parce qu'effectivement, comme tu disais, il y a de la précision. Et moi, je sais qu'on avait monté une équipe pour une entreprise qui fabriquait des carrioles et des remorques. Et le chef d'entreprise, comme il y avait ses obligations d'avoir un vestiaire et des toilettes séparées, il avait dit, tant qu'à faire, je vais prendre une équipe parce que faire tous ces investissements, sachant que les branches professionnelles aident l'entreprise à se mettre aux normes. Hein. Et donc, il avait embauché une équipe, il m'avait dit, je vais former six soudeuses, un premier groupe. Donc, au premier coup, il avait laissé le vieil entrepôt aux femmes. Hein, les salariés hommes avaient le nouvel entrepôt climatisé, l'atelier climatisé. Et au début, les hommes ont beaucoup rigolé. Puis quand ils ont vu ce que l'équipe de femmes sortait au bout d'un mois, ils n'ont plus du tout rigolé. Ils ont dit, on devrait mixer les équipes, ça serait plus sympa pour les accueillir pour elles. Donc je vous dis honnêtement, dans les métiers de la soudure, et sachant qu'après la soudure, il y a des choses très spécialisées dans l'alimentaire, dans l'aéronautique et chez nous quand même, dans le nucléaire aussi, sachez qu'il y a un bon créneau et que souvent il y a des offres de France Travail dans ce genre de choses. C'est un créneau aussi à expérimenter. Voilà.
Et alors, moi je voudrais poser une question. Quels sont les préjugés que vous avez le plus entendus d'ailleurs sur le BTP, et est-ce qu'aujourd'hui on l'entend un petit peu moins, est-ce que ça a évolué aussi ?
Je ne sais pas si on les entend moins, parce qu'il y aura toujours un peu... Voilà. Mais je pense qu'en tout cas, les métiers sont plus adaptés. Nous, on a beaucoup de conductrices d'engins, des mécaniciennes aussi, après dans l'encadrement également. Mais il n'y a jamais de problème. Enfin, on n'a jamais rencontré de difficultés.
Dans les idées reçues, on peut dire que c'est des métiers, je ne sais pas, par exemple, de gros bourrins, ou alors des métiers dans lesquels on n'évolue pas. C'est faux. La plupart des personnes qui ont évolué au sein de ces métiers ont commencé tout en bas de l'échelle. Je pense que personne ici me contredira. Voilà, on part très souvent d'un profil ouvrier et on peut finir très facilement chef d'équipe ou de chantier ou autre, ou en bureau d'études en fonction de l'évolution de son âge et de son expérience, etc. Donc franchement, c'est vrai que c'est juste que ce sont des branches qui n'ont pas une très bonne publicité, qui jouissent d'une mauvaise publicité, alors que finalement c'est plus si, comme on l'a dit juste avant, aussi bourrin entre guillemets que ça, c'est quand même beaucoup plus accessible.
Du coup, j'avais une petite question sur les conditions de travail, les grilles de salaire, comment ça fonctionne, même si on a entendu voilà, que ça se ralentit un peu par rapport au contexte général. Mais quand même, est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur des exemples de métiers pour des gens qui sont en reconversion? Voilà, demain, France Travail s'arrête, je me lance dans le BTP. Comment ça se passe ?
Mais je dirais que on essaie d'appliquer la grille, quoi. Après, voilà, il y a des grilles qui sont mises en place selon les niveaux, hein. N1, P1, N2, P2. Enfin voilà, quoi. Ouvrier, chef d'équipe, monteur réseau, chauffeur poids lourd. Après, bien sûr, il y a l'expérience. Après, c'est sûr que quelqu'un qui arrive, qui a tous les cassettes du monde et puis qui veut, d'office, qui va souhaiter un taux horaire de 15 ou 16 euros, bah pour nous, c'est sûr que c'est pas toujours évident, quoi. On va peut-être avoir tendance à demander de faire ses preuves, je veux dire, et après voilà, il y a pas de frein, mais c'est vrai que on a quand même besoin de s'assurer de ce que voilà le du candidat, de ce que la personne vaut entre guillemets, quoi. C'est pas méchant, mais c'est sûr que aujourd'hui nous les entrepreneurs on se fait assommer de charges, donc après voilà, il y a aussi d'autres avantages, enfin les avantages qui sont aussi devenus obligatoires, il y a les paniers, il y a les zones, il y a les trajets, il y a le téléphone pour dans certains cas pour des chefs d'équipe, il y a un tas de choses. Après, il y a des bonnes mutuelles, ouais, exactement. Je pense que c'est comme dans tout métier, il faut faire ses preuves, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas de frein, quoi.
On peut le dire là parce qu'on a pas mal d'écoles et de centres de formation. Par exemple, on le voit en alternance. Si on a déjà un petit niveau d'expérience, on va être mieux rémunéré, justement, parce que ce sont des conventions collectives qui vont vraiment favoriser l'expérience. Exactement. Voilà. Si on se compare à d'autres secteurs, on va dire que les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics sont quand même plus favorables que beaucoup d'autres secteurs. On peut le dire.
Je crois que le SMIC TP, dans le TP, il est plus élevé qu'un SMIC classique, quoi.
Exactement. Excusez-moi, je voulais vous demander, bonjour Samy, j'ai passé une formation il y a quelques années en conducteur d'engin de travaux, là. Et en fait la formation elle était vraiment courte, ça a duré 2 semaines, et par la suite j'ai jamais réussi à trouver d'embauche, parce qu'on me disait tout le temps, t'as pas assez d'expérience.
Pour acquérir l'expérience, il faut travailler, quoi, ça c'est
voilà,
clair. Quoi.
Ouais. Exactement.
Non, nous après, bah, c'est vrai que conducteur d'engin, alors nous on travaille sur des réseaux secs, donc dans des milieux vraiment ultra-urbains, quoi. Avec beaucoup de réseaux, donc c'est sûr que on va préférer quelqu'un qui a de l'expérience. Après, voilà, après c'est compliqué. Après, je peux comprendre que ce métier-là, faut quand même un minimum d'expérience. Après, il faut l'acquérir. Après, vous avez été formé où, par exemple ?
Pour l'emploi, ouais. À l'auto-école.
Alors, juste, on va parler de la conduite d'engin parce que c'est quelqu'un que, enfin, c'est quelque chose qui séduit énormément de monde. Nous, on reçoit à peu près 200 demandes pour 30 places. Donc tout le monde veut faire de la conduite d'engin. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on se rend compte que les gens ont passé le CACES en 2-3 jours, voire une semaine, mais en fait, ils ne sont pas conducteurs d'engin. Donc quand on passe le CACES, on fait une marche avant, une marche arrière, on slalome entre des cônes, on fait un petit chargement de camion, une petite tranchée, mais on ne sait pas travailler. Il faut différencier la formation, les titres professionnels qu'on va pouvoir proposer sur la conduite d'engin et le CACES. Voilà. Et aujourd'hui, nous en tout cas à l'ESIR, on ne fait pas passer de CACES pour des gens qui ne sont pas déjà conducteurs d'engin et qui n'ont pas d'expérience. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes conducteur d'engin si vous n'avez pas d'expérience. Oui, mais par exemple, 2 semaines, c'est une formation mini-engin. C'est le minimum. Formation débutant sur des mini-engins, on va proposer 2 semaines de formation.
Des petits chantiers, on va pouvoir mettre un conducteur d'engin pour qu'il apprenne un peu. Après, c'est sûr qu'intramuros, Avignon, avec du gaz, de l'élec et tout, quand on accroche le gaz, là, c'est compliqué. Et même les plus chevronnés, des fois, ils ont un peu du mal. Mais après, il y a toujours de la place pour un conducteur d'engin, je veux dire, pour apprendre sur un petit chantier, je veux dire, à la campagne. Mais bon, c'est vrai que le métier, il faut l'apprendre. C'est pas avec un CACES qu'on sait conduire un engin, quoi.
Effectivement, avec ces formations-là, ça peut amener une polyvalence quand on est déjà au sol, quand on connaît ce que c'est le métier, voilà, en étant dans la production. C'est toujours un plus parce qu'en étant au sol, on peut être amené à prendre un engin. Mais pour être vraiment conducteur d'engin, il y a des titres pour ça qui valident tout un tas de compétences. Et effectivement, parfois, sur tout l'ensemble des formations, et c'est pas que pour le BTP, c'est qu'on a des titres qui peuvent se valider en 2 mois, et à côté, on a des licences qui donnent droit quand même à un BTS ou une licence qui se valide en 2 ans. Donc, faut quand même, avant de se lancer dans une formation, de prendre en compte le contenu, et effectivement, c'est pas parce qu'on a un CACES qu'on est conducteur d'engin. Voilà, ça peut amener une polyvalence, mais ça veut pas forcément dire qu'on est conducteur d'engin.
Merci. Une autre question, s'il vous plaît.
Oui, Boudin Hervé, donc France Travail. Par rapport à ce type de situation, c'est là où les dispositifs de France Travail peuvent aussi permettre de résoudre cette situation en permettant à une entreprise d'accueillir quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Je pense à l'immersion. Donc l'immersion où une entreprise qui ne vous connaît pas peut vous avoir en situation pendant une certaine période. On fixe ensemble le plan de formation, enfin, le plan lié à cette immersion. Par convention, vous êtes dans l'entreprise, mais vous êtes toujours demandeur d'emploi, donc toujours sur France Travail. Vous ne coûtez rien à l'entreprise, mais elle peut vous juger sur pièce sur des petits chantiers et voir si elle a possibilité ensuite, peut-être par le biais d'une agence d'intérim ou d'autres dispositifs comme un contrat professionnalisation pour vous permettre d'aller plus loin dans la démarche et dans la qualification, la montée en compétences. Donc ça peut vous permettre justement de résoudre ce genre de situation. Après, bon, c'est vrai que là, on est dans une période qui est un peu complexe. On espère tous que ça va repartir. Et comme on dit, quand le bâtiment va, tout va.
Et alors justement, est-ce qu'il est possible de suivre une formation en alternance ? Et si oui, est-ce qu'on a des exemples de lieux où on peut faire une formation en alternance ?
À Malemort, on peut suivre des formations en alternance, notamment sur la conduite d'engin, pour former des canalisateurs, des monteurs de réseau, des maçons VRD, des topographes géomètres, des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux. On forme sur tous nos titres professionnels en alternance.
Sur combien de temps il faut prévoir une alternance en général ?
Alors, ça va dépendre du métier. Si on prend, admettons, un conducteur d'engin, ça va durer à peu près 15 mois. Le contrat va durer 15 mois et on va venir 12 semaines en formation chez nous. Donc, c'est un premier bloc de 6 semaines et après 2 fois 3 semaines. Si on prend un métier de canalisateur, c'est pareil, c'est un contrat qui va durer à peu près 1 an et on va venir sur des modules. Donc en fait, l'idée, c'est de passer 80% du temps en entreprise et 20% en formation.
Ces entreprises, vous les fournissez, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'on doit aller les démarcher en amont ?
Alors, Les deux. Nous, on aime bien que les candidats aient quand même fait la démarche d'aller chercher une entreprise parce que c'est preuve de motivation.
C'est ça. L'ouverture de l'apprentissage, c'est à partir de 15 ans et un jour. Sinon, on prend en dessous, même 14 ans sous le statut scolaire, s'ils ont 15 ans avant la fin de l'année et qu'ils aient fini leur cycle de troisième, qu'ils soient allés et qu'ils aient fini la classe de troisième. Donc là, on les prend aussi en apprentissage et effectivement, au-delà même de 29 ans, sous les trois conditions que je vous ai énumérées tout à l'heure.
Jusqu'à 29 ans en apprentissage, parce que c'est vrai que c'est la filière qui est le plus portée par l'État, hein, clairement. C'est le dispositif où il y a le plus d'aide, où il y a le plus d'intérêt, autant de la part des candidats que des entreprises. Mais par contre, nous, l'opérateur de compétences, on va proposer des solutions pour tout ce qui ne va pas rentrer dans les cases. France Travail a sa propre offre de formation et les OPCO derrière, ils accompagnent les personnes. Encore une fois, le plus difficile, c'est d'identifier son futur patron, voire même, j'ai envie de dire, presque son futur métier. Et derrière, on va trouver des solutions. Un contrat en alternance, c'est minimum 6 mois. On a plein de certificats de qualification professionnelle dans nos branches parce que justement, il y a plein de métiers qui sont pas représentés par des titres professionnels où là, ça va être des choses très concrètes. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, le cordiste, c'est un CQP, un certificat de qualification professionnelle. Ça dure 150 heures. Donc là, en quelques mois, vous avez la formation pour devenir cordiste dans une entreprise du bâtiment. Voilà, c'est un exemple. Donc là, on fait des contrats d'alternance sur 6 mois. Donc c'est encore plus technique, précis, rapide qu'une formation un petit peu plus longue. Voilà, donc c'est 6 à 24 mois, voilà, sauf cas exceptionnel, voilà, mais il y a toujours des petites dérogations. Voilà. Mais encore une fois, il y a le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, il y a le plan de les plans qualifiants. On a vraiment 4 ou 5 dispositifs financiers à notre disposition pour accompagner les entreprises. Donc c'est au cas par cas, un petit peu comme font les conseillers de France Travail, on va essayer de trouver l'offre financière la mieux adaptée à votre projet professionnel.
Alors non, on fournit pas l'entreprise, mais par contre, on est en contact permanent avec les entreprises du secteur et elles nous font part de leurs besoins en recrutement. Donc c'est comme ça qu'on peut faire matcher un profil avec une entreprise et déclencher un contrat d'alternance.
C'est ça, c'est les mises en relation. Nous, on vous accompagne sur les mises en relation et sur les demandes qu'on peut avoir sur votre secteur géographique.
Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le secteur du BTP de manière large. On a parlé des femmes, mais on n'a pas parlé aussi si on est en situation de handicap. Est-ce que ce domaine, justement, il est accessible aujourd'hui aux personnes en situation de handicap ?
Alors, ben oui, bien évidemment. Mais après, tout dépend des contraintes liées à cette situation. Des fois, il y a des handicaps qui ne sont pas forcément visibles, où il n'y a pas forcément de contraintes dans l'application quotidienne dans un exercice professionnel. Voilà, la vigilance à avoir, elle va porter là-dessus. Bien évidemment que si une personne ne peut pas porter de poids ou ne peut pas être en station accroupie, on ne va pas lui proposer d'être maçon. Voilà, c'est l'importance. Donc oui, c'est accessible, mais encore une fois, en prenant en compte les conditions réelles du terrain, et la situation de la personne.
Oui, chez nous, on avait le cas d'un jeune qui était donc en fauteuil roulant. Donc en fait, l'entreprise a adapté un poste de travail et nous, au CFA, on avait les locaux adaptés aussi. Donc ça a pu permettre de tout faire matcher et donc de permettre cette accessibilité. Mais toujours pareil, il était sur un BTS travaux publics et donc tout a été adapté. Alors il est bien évident qu'il y a certains chantiers où il ne peut pas aller... Voilà, mais en tout cas, le poste de travail a été adapté. Donc, quand on arrive à adapter comme ça, c'est très bien. Mais après, je rejoins ce que vous disiez aussi, ça dépend du poste et de l'entreprise aussi et des conditions de travail.
Monsieur Marquez, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Juste pour dire que nous, en inclusion, vous êtes un public qui est apte à travailler, du coup, en inclusion. Et nous, on a des entreprises qui recherchent des personnes qui ont une RQTH parce qu'ils ont une obligation d'avoir un certain taux dans leurs effectifs. Et on a de plus en plus, moi qui m'occupe de tout le bassin de PACA, on a de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Donc c'est vraiment pas un frein, au contraire, on va s'adapter au handicap de la personne pour qu'on adapte l'intégration de la personne dans l'entreprise. Et ça, on a des aides on a des aides qu'on peut avoir pour mieux vous mettre en situation de travail.
Aujourd'hui, les médecines du travail aussi sont très présentes auprès des entreprises. Les médecines du travail vont voir les postes, vont préconiser des adaptations aux postes. Encore une fois, il faut avoir conscience d'une certaine réalité. Bah, c'est le premier frein, ça va être le coût. Parfois, l'entreprise ne va pas avoir forcément les financements pour avoir la réactivité du jour au lendemain d'adapter un poste. Ça peut prendre du temps aussi. Il y a effectivement des fonds, des financements. Mais voilà, parfois, il y a cette réalité qui malheureusement, l'entreprise est contrainte de faire avec les moyens qu'elle a.
En centre de formation aussi, on a de plus en plus de personnes avec des RQTH et on a notre pédagogie et nos formateurs qui s'adaptent à ce public. Nous, on a eu en menuiserie un malentendant, on a d'autres qui ont eu des troubles autistiques et on adapte la pédagogie pour qu'ils puissent suivre la formation et s'insérer au mieux dans la vie professionnelle.
Est-ce qu'il y a d'autres questions
Actuellement, le secteur qui embauche énormément dans le BTP, c'est le secteur nucléaire, sachant avec le démantèlement qu'il va y avoir Pierre Latte, Marcoule, le CEA, Kedrach, c'est ce qui est à peu près dans la région, j'en sors du nucléaire. Est-ce qu'il y a chaque site a sa formation en radioprotection. C'est une formation qui est hyper difficile. Moi, je l'ai passé, je l'ai au bout de deux fois et c'est une galère complète. Est-ce que vous, et sachant que chaque site a sa formation en radioprotection et sûreté nucléaire, vous préparez à cette formation?
Ben non, parce que nous, c'est le BTP, c'est pas le nucléaire.
Dans le nucléaire, il y a du BTP.
Du coup, c'est pas notre branche, c'est eux qui s'occupent de ça et qui forment leur employés à ça.
On finance énormément de ces formations pour les adhérents, mais effectivement, c'est voisin, enfin, si vous voulez, on est cousin, mais on n'est absolument pas la branche du nucléaire. Là, il y a vraiment bâtiment, travaux publics et négoce. Donc, si vous voulez, politiquement, c'est pas nos branches qui représentent ces métiers. Voilà. Par contre, on finance la formation quand on a justement des entreprises du bâtiment qui doivent intervenir sur des sites qui touchent au nucléaire. Là, effectivement, les personnes doivent être formées pour pouvoir intervenir sur ces sites. Mais nous, en tant que branche, on va pas intervenir, si vous voulez, sur cet aspect-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, on a brossé un petit peu tout ce qui est l'état des lieux et l'attractivité du BTP, la partie mutation et les grands défis donc à venir de ce domaine, tout ce qui est enjeu de réputation et de diversité. On a aussi peut-être fait le tour sur les formations. Est-ce qu'on aurait oublié peut-être quelque chose à ce sujet?
De parler des métiers en tension, en fait, parce que l'offre et la demande ne correspondent pas parfois. Là, actuellement, dites-moi si je me trompe, mais les métiers qui sont recherchés, c'est les menuisiers, les canalisateurs, les maçons VRD, couvreurs, cordistes, charpentes, oui, beaucoup de charpentiers. Donc voilà, après, ça fait quand même pas mal de métiers, oui. Et après, on a les métiers qui sont le plus demandés, comme conducteur d'engin, et là, il y en a trop. Électricien, plombier, c'est pareil, on a de la surdemande.
En tout cas, on va remercier déjà tout le monde. On va remercier nos intervenants du jour. Je vais les reciter. On avait bien sûr Monsieur Pelka Olivier, donc gérant de Pelka Réseau et Canalisation. Équipe avec Madame Magnan. Donc, nous avions aussi l'agence intérim. J'ai de la chance avec Monsieur Philippe Marquez. Le CIE 84 avec Madame De Crozal. Et enfin, on avait aussi d'autres intervenants qui étaient présents avec nous. On avait la Fédération départementale du bâtiment avec Madame Gaulin. L'opérateur de compétences et de la construction Constructis avec Madame Canavo, le CFA du bâtiment d'Avignon Florentin Mouret avec Madame Bruguier et enfin Essir en formation avec Madame Ponce. Merci en tout cas d'avoir répondu aux questions que se sont posées à la fois le public et donc à la fois que vous avez pu échanger. On espère qu'on a déjà pu répondre un petit peu à pas mal de leurs questions. Merci beaucoup, au revoir.
Vous venez d'écouter une table ronde enregistrée dans le cadre de la semaine du BTP et qui s'est déroulée à l'agence France Travail de Carpentras.